taxe sur le bâti. Et donc, quand vous êtes, vous dites que vous êtes très sensible à l'imposition sur les contribuables, je pense que vous devez peut-être agir sur ce point, parce que c'est vrai que dans la commune, la taxe sur le bâti n'augmente pas, mais comme je crois qu'elle va augmenter à la CCAOP, le contribuable sera quand même soumis à un impôt complémentaire, je crois.
Alors, en ce qui concerne la communauté de communes et le gouvernement de Provence, elle a sa propre problématique, ses propres contraintes financières, et notamment, tout à l'heure je faisais allusion aux réformes législatives incessantes et complètement handicapantes, on est dans le cas au niveau de la communauté de communes, qui s'est vue attribuer des compétences, imposer des compétences, donc des charges non compensées. Je prends l'exemple de la prévention des inondations, donc le fameux dispositif de la taxe GEMAPI. Maintenant, ce sont les communautés de communes qui sont responsables de la prévention des inondations, avec des travaux considérables à la clé, en particulier pour notre CCOP, notre communauté de communes, avec l'Ouvèze et surtout l'Aigue, qui a malheureusement, au niveau de ces digues, un certain nombre de points tout à fait litigieux, tout à fait dangereux, et il va falloir faire des investissements extrêmement importants. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres. On n'imagine pas à quel point, tout à l'heure je me plaignais au nom des communes, mais les communautés de communes sont un petit peu dans la même tendance. On leur demande sans cesse de contribuer à tel fonds de péréquation divers et variés, et on leur demande d'assumer des dépenses nouvelles, et il n'y a pas les recettes en face. Donc, en ce qui concerne la CCAOP, effectivement, il a été décidé d'augmenter légèrement des taux d'impôt locaux qui sont, il faut quand même le rappeler, extrêmement bas comparativement aux communautés de communes comparables de même strate. Monsieur Bancorsini.
Oui, monsieur le maire. Je sais que vous avez été bien fatigué, alors je ne veux pas quand même trop exagérer, mais je vous sens absolument abattu. Vous êtes en train de me dire que vous avez des charges, etc. Par contre, vous ne nous parlez pas des 15,13% du département que vous avez récupéré quand même. Non.
Alors, les 15% du département, c'est pas un cadeau, c'est une part de la compensation de la perte de la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'une compense.
Oui, mais vous n'allez...
L'État compense la suppression de la taxe d'habitation, non pas en abondant lui-même à 100% de la perte, mais en demandant au département d'amputer ses recettes pour les donner aux communes. D'ailleurs, je ne sais pas comment le département fait
pour compenser ça. Moi aussi, d'ailleurs.
Il augmentera les impôts ou d'autres taxes. Et donc, les communes, en compensation de la perte de la taxe d'habitation, reçoivent ces 15% du foncier bâti du département, plus une indemnité compensatrice de l'État. Tout ça, ce sont des mécanismes qui sont destinés à évoluer dans le temps pour diminuer.
Non, mais il y aura
moins, voire peut-être plus de compensation dans
J'entends bien, monsieur Bayer. Très bien, c'est très clair. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est que vous dites en permanence, on a des charges, on est acculé, etc. Mais vous ne parlez jamais quand vous avez de l'argent qui arrive en plus. Donc c'est quand même ça.
Ce n'est pas de l'argent en plus.
Pourquoi ?
On nous a pris.
C'est rien que vous n'aviez pas si on vous le donnait pas, quand même.
On nous a pris 700 000 euros de taxes d'habitation et on nous rend. En 2017, et on nous rend 700 000 euros de taxes d'habitation.
Non, mais je suis d'accord.
On est, comme le maire l'a expliqué, on est perdant puisque de nouvelles familles s'installent sur Cabaret, de nouveaux foyers s'installent sur Cabaret, mais on a toujours 700 000 euros. La taxe des habitations existerait toujours telle qu'elle existait auparavant, sans changer les taux. Alors on aurait peut-être 720 000, mais on aura toujours 700 000. Ce n'est pas un gain, c'est on touche. La taxe d'habitation qu'on a supprimée, on nous la compense.
Bon,
au niveau où elle était en 2017.
Bon, ben, je comprends bien. Mais alors, on ne dit pas, on m'a enlevé ci, on m'a enlevé ça. Et quand vous avez recevé quelque chose en plus, vous dites, ah ben non, mais c'est juste ce qu'on compense. Ben, on vous l'a donné quand même. Donc, ce n'est pas aussi dramatique que ce que vous avez l'air de dire.
Non, monsieur Brocorsini, si vous vous en souvenez, mon propos s'est limité à déplorer le fait que la compensation, certes, qui existe, est stoppée à l'année 2017. Je n'ai fait que dire cela, ce qui est la stricte vérité.
Oui, vous avez quand même, je vous ai entendu vous plaindre en disant on nous enlève de plus en plus, comme vous voulez qu'on s'en sorte. Parce qu'à un moment donné, on a envie de mettre la main à la poche pour vous apporter un petit peu d'argent, parce que vous me faites un souci.
Au CCAS, ce sera le bienvenu.
La dotation de globale de fonctionnement, 400
000 euros. Oui, j'ai même pas rappelé qu'aujourd'hui, on touche 15 000 euros de dotation globale de fonctionnement, alors qu'à une certaine époque, c'était 400 000 par an. Vous vous rendez compte un peu la chute vertigineuse? Et comment est-ce qu'on fait? Alors là, je félicite mon DGS, je félicite les élus et les services pour le travail qu'ils ont accompli, parce que chaque année, ça devient de plus en plus difficile, crispant, angoissant de boucler un budget. Là, je ne fais pas mon calimero, c'est une vraie réalité et je tiens à ce que tout le monde en soit bien conscient.
Je vous entends bien. Je connais pas tout à fait le problème des 400 000, mais comme je suis quelqu'un qui s'informera, j'irai voir exactement comment ça se passe. Parce que 400 000 par an, ça me paraît énorme.
Alors, oui, mais ça, merci beaucoup. Alors, en deux mots, la dotation globale de fonctionnement est une dotation, encore une fois, c'est un mécanisme de compensation,
ça, je sais, ouais,
qui a été institué par l'État en compensation du fait que l'État s'est déchargé d'un certain nombre de missions au profit des communes. Donc, on a dit à un moment donné, c'était dans les années 80, les lois de décentralisation. À partir de maintenant, ce sont les communes qui vont accomplir telle ou telle compétence auparavant exercée par l'État. En compensation, on leur donne, pour Camaret, c'était 400 000 euros par an. Bon. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ce n'est plus 400 000 euros, c'est 15 000, mais par contre, les missions, et le personnel qui y va avec, et toutes les dépenses qui vont avec, on les assume toujours. Énorme scandale, dont je n'ai pas parlé, mais vous me donnez l'occasion de le rappeler. Voilà, mais vérifiez. Et vous verrez que malheureusement, c'est indiscutable. Bon. Alors, est-ce que nous pouvons passer au vote des taux? Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à la majorité, à l'unanimité, et je vous en remercie, et je pense qu'on est camarade toi également. Dossier numéro 5, budget principal 2021, rapporteur Liliane, budget principal 2021, rapporteur Liliane Diaz.
Vu le débat d'orientation budgétaire du 4 mars 2021, vu l'examen en commission des finances du 29 mars 2021, vu la reprise des résultats de l'exercice 2020, vu la décision relative au taux des taxes directes locales pour l'année 2021, considérant que le budget primitif 2021 se présente équilibré en dépenses et en recettes dans les deux sections de fonctionnement et d'investissement comme suit, section de fonctionnement 5 614 703,11 €, section d'investissement 2 065 878,39 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2021 de la commune de Camaret-sur-Aigle. Alors, est-ce que je le présente un peu ou pas? Hein? Donc, en dépenses de fonctionnement prévisionnelles, on a 1 372 239. Bon, on va essayer de se rapprocher des 1 350 000. On a économie réalisée par le passage en lettres sur les plusieurs sites. On a un nouveau marché d'approvisionnement en gaz qui fait apparaître une baisse de 11%. La mise en place d'un relevé mensuel des compteurs d'eau pour qu'il n'y ait plus de dérives comme il y avait eu précédemment. Un budget alimentation qui sera un peu plus élevé puisqu'on est obligé de prendre des produits bio qui vont monter en puissance. Des nouveaux marchés concernant les téléphones fixes et mobiles seront lancés en 2021 et devraient normalement engendrer des économies, notamment par le passage de la fibre à la fibre des bâtiments communaux. Et du fait de la crise sanitaire, le budget fête cérémonie ne devrait pas retrouver son niveau de 2019. La commande publique continue d'être suivie de très près par le service finance comptabilité, les chefs de service et la direction générale grâce à des outils de comptabilité analytique précis mis en place ces dernières années. En personnel communal, on a un prévisionnel de 3 230 000, prévisionnel en baisse par rapport à 2020, malgré les reclassements réglementaires, les avancements d'échelons et de grades, l'objectif 2021 est d'amorcer un ralentissement des dépenses de personnel pour arriver à terme à une stabilisation puis à une diminution sur le mandat. En charge de gestion courante, en chapitre 65, on a cette nouvelle hausse pour le forfait alloué à l'école Saint-Andéol, qui atteindra 113 000 euros, obligation scolaire dès l'âge de 3 ans. On notera la subvention communale du CCAS de 42 000 euros ben, du fait de l'excédent de clôture de 19 406 sur 2020. Donc, ce qui équilibre un budget de CCAS de 62 950 euros. Les subventions aux associations et autres organismes ont diminué, quelque peu. Il y a demande moins importante de la part des associations qui ont joué le jeu également, moins 20 000 par rapport à 2020. Les contributions aux divers syndicats, vous connaissez. La contribution au FPIC, c'est-à-dire au Fonds national de péréquation, qui est transférée au chapitre 14 et qui est d'un peu moins de 106 000. Les dépenses prévisibles liées aux emprunts est de 45 000 euros. Donc les dépenses prévisionnelles de fonctionnement sont donc de 5,6 millions, avec comme objectif final de les stabiliser par rapport à 2020. Elles étaient à 5,2 millions en CA 2020. Les recettes de fonctionnement, l'essentiel des recettes communales est constitué par le produit fiscal, chapitre 73. La revalorisation par l'État des bases fiscales n'est pas encore connue. Les taux communaux resteront donc identiques aux années antérieures, soit 20,80 pour la taxe sur le foncier bâti, 57,11 pour le foncier non bâti. Ces taux sont dans la moyenne nationale et départementale de la strate. Il y a l'augmentation du produit fiscal qui ne proviendra que d'un effet base. La recette fiscale 2021 qui devrait se situer aux environs de 1,8 million d'euros. Concernant les autres recettes de fonctionnement, on a donc un montant précis, on a le montant précis des dotations de l'État. Pour l'instant, il n'est pas précisément connu à ce jour, mais compte tenu de ce qui a été indiqué par le projet de loi de finances 2021, la DGF baisserait encore cette année à 15 400, ce dont nous parlions tout à l'heure. Et le montant de l'attribution de compensation versée par la communauté des communes est de 2 015 000. Parmi les autres recettes de fonctionnement, il y a le produit des loyers, des appartements, le produit des services gérés en régie, restauration municipale, crèche, CLCH, etc. Les participations de nos cofinanceurs, la CAF et la MSA, les subventions et d'autres communes et collectivités territoriales, et la taxe additionnelle sur le droit de mutation à titre onéreux, que l'on peut estimer à 225 000 en 2021. Donc on peut envisager une recette de fonctionnement stable en prévisionnel à 5,6 millions. En 2020, en CA, c'était à 5 559, pour rappel.
Investissement. C'est un investissement.
Je continue. Budget primitif. Pardon. Je suis un peu perturbée. J'en ai dit la moitié.
C'est une fièvre post-vaccinale.
Oui, je suis. J'ai été vaccinée à 1 heure, c'est peut-être ça. Je suis un peu bizarre. Les dépenses d'investissement. Après l'achèvement des travaux concernant le bâti en entrée de ville et la réalisation de la requalification de l'espace urbain, il y a le projet également de l'aménagement intérieur des 4 logements. Donc à ce titre, que l'on vient de prévoir en plus des restes à réaliser en 2020, en TTC, les dépenses. Phase 2 de l'aménagement urbain, finition de la place, voirie, circulation, piéton et réseau, 417 078 60, c'est un marché attribué. Et l'aménagement des 4 logements avec 245 000 euros, c'est une estimation en marché public en cours. Parmi les autres grandes dépenses, la participation numéro 1 de la commune au SDIS pour la construction de la caserne des pompiers à Sérignan, 40 000. Les travaux sur les bâtisses scolaires, 120 000. En particulier, il y aura les amendiers. Travaux sur les autres bâtiments communaux, hors logement, entrée de ville, il y en a 124 000. Voirie et réseau d'hiver, hors avenue Fernand Gonnet, entrée de ville, 135 000. Et le mobilier informatique et matériel d'hiver, 55 000. Il faut noter le montant de la nuitée en capital de la dette qui est à 188 659 et des restes à réaliser en 2020 qui sont de 656 392,43. Donc au total, les dépenses d'investissement inscrites au budget seront de 2 065 000. En recettes d'investissement, des ressources propres à la commune par l'affectation du résultat 2020. Provenant de la section de fonctionnement 327 519 et l'excédent d'investissement de clôture 164 652. La taxe d'aménagement, environ 100 000. La recette estimée de la FCTVA, 161 000. La participation de sa CCAOP pour les travaux sur le bâti, 48 500 euros, décidément. Diverses opérations d'ordre entre sections pour un montant d'environ 263 000, ce sont les dotations aux amortissements. Le virement de la section de fonctionnement, amendements au chapitre 21, 115 000. Il faut prévoir également une décision modificative, les recettes liées à la vente de biens communaux votées en conseil municipal, 40 000. La subvention au titre du contrat départemental de solidarité territoriale, 80 000. Et un emprunt de 245 000 afin de financer l'aménagement des 4 logements d'entrée de ville sans attendre les notifications des subventions demandées. Voilà. Les restes réalisés 2020 en recettes d'investissement sont de 581 078,74, essentiellement des subventions accordées par l'État à la région et département. Au total, les recettes d'investissement inscrites au budget primitif seront de 2 065 000. Plusieurs demandes de subventions étant en cours d'instruction ou allant être demandées pour un total de près de 200 000 auprès de l'État, la région et département. Une EDM viendra compléter les recettes et donc les dépenses d'investissement pour les projets communaux. Et derrière, vous avez le tableau obligatoire des indemnités des élus.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?
Ah oui, oui.
Monsieur Savin ?
Oui, vous parlez, dans les recettes de fonctionnement, les taux communaux sont identiques, donc 20,80% pour la taxe sur le foncier bâti. Où sont les 15,13% que vous allez récupérer ?
Ben, là, ce sont les taux communaux, les recettes de fonctionnement, mais en termes de taux communaux. Donc les 15% qu'on récupère, c'est un autre. C'est pas dans la même présentation. C'est une recette, mais pas due au titre des impôts locaux.
Parce que dans la recette fiscale 2021, vous situez aux environs d'1,8 million d'euros. C'est pratiquement ce que vous aviez l'année dernière. Donc cette taxe de 15% ne rentre pas non plus en état de fonctionnement là-dedans.
C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est 15%. L'année dernière, la totalité de la perte de la taxe d'habitation était compensée par l'État. Depuis cette année, la totalité de la taxe d'habitation équivalente 2017 est compensée en partie par l'État, mais pour le reste, par la récupération par les communes du taux de taxe d'habitation équivalent pour la commune, 15%. Voilà. Juridiquement, d'un point de vue comptable et financier, le taux de la commune, c'est 20,80. Les 15%, ce n'est qu'une compensation de la taxe d'habitation, donc ils n'ont pas à apparaître en tant que taux communal. Même si on nous demande, quand on vote le taux, d'additionner notre taux communal avec le taux de la taxe du foncier bâti du département en tant que compensation de la part de la taxe d'habitation. C'est pour ça qu'on a toujours la même masse de recettes fiscales. Ce ne sont que des compensations de ce que nous avons perdu en taxe d'habitation en 2017. Voilà. Et la petite augmentation que nous avons dans les recettes fiscales, elle est due à l'augmentation des bases, qui est à peu près de 0,90 ou de 1% par an. Et ça dépend de l'État.
On pourrait dire que vous en avez 8.
On ne vous a pas entendu, M. Moncorsini.
Vous voulez dire, excusez-moi si je comprends bien, vous voulez dire que cette somme est comprise dans les 1,8 million.
Oui, bien sûr.
La recette hors taxe d'habitation est à peu près de 1,290 millions d'euros. Et il faut ajouter les 700 000 de taxes d'habitation que nous avions avant, qui était le taux de taxe d'habitation voté par la commune jusqu'en 2017. Maintenant, nous n'avons plus à voter le taux de la taxe d'habitation puisqu'elle n'existe plus, et elle est compensée par en partie l'État et en.
Ça aurait été trop beau là.
Le taux du département. Et là, ce n'est pas 700 000 euros en plus, ça serait le rêve.
De voter une délibération dans laquelle on augmente
ce taux. N'oubliez pas de prendre le micro, s'il vous plaît.
Je m'excuse, mais on vient quand même de voter une délibération dans laquelle on inclut ce taux dans les recettes fiscales de la municipalité, il me semble.
Ce sont les recettes fiscales, effectivement, de la municipalité, mais ce ne sont pas les taux, les 15% ne sont pas un taux communal. C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends hein, votre raisonnement, parce que même moi je le trouve imbécile. Au lieu de nous dire, vous touchiez tant de taxes d'habitation, on a supprimé, on s'est engagé à compenser, donc vous allez être compensé de tant, on fait tout un tas de bricolage qui est d'enlever au département sa taxe foncière bâtie, d'appliquer le taux en plus du taux communal, mais ce n'est pas nous qui percevons la recette. Cette recette, elle est perçue par le département qui nous la reverse.
Oui, on est d'accord. Monsieur Veil, on est d'accord sur le principe.
Mais la commune a exactement
le même taux
de recettes qu'elle avait en 2017, hormis l'augmentation liée à l'augmentation des bases par l'État de 0,90 ou de 1%. Si nous n'avions pas mis les 15% additionnés à notre taux, notre délibération était illégale et au prochain conseil, nous aurions dû revoter, puisque c'est la loi, et la loi nous demande de faire cette opération. C'est mal exprimé, c'est difficile, mais c'est comme ça. Mais je pense que c'est pour finir en embrouillant un peu tout le monde, comme la dotation globale de fonctionnement, en disant il n'y aura plus rien, il n'y aura plus que 15 000 euros de compensation.
Oui, excusez-moi, c'est un peu un berlicoté, effectivement, mais ok, je comprends que le taux de la BAC, le taux ne change pas, mais la recette fiscale, quand même, que va recevoir la mairie, est augmentée de ce montant.
Non, mais... Non, la recette fiscale de la commune, l'État aurait pu, effectivement, ça aurait été plus clair, mais plus difficile pour nous, dire, ben, je supprime la taxe d'habitation et les communes se débrouillent pour trouver... la compensation. Il a voulu compenser. Bon, après, on peut regretter que l'État ait compensé. Hein. Peut-être que...
Non, mais là, c'est plus une compensation. C'est un changement d'imposition que nous avons et que nous voulons de voter. C'est pas une... Non, je suis désolé, c'est pas une
compensation. Légalement, ça s'appelle une compensation.
Non, ça c'était avant. Avant, oui, il y avait une compensation. Ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, là, la réglementation change, la fiscalité change, et donc, il y a un glissement de la fiscalité. Alors, je comprends que vous dites que le taux de 20-80 ne change pas et qu'on n'entre pas le taux de 15 dans les recettes municipales, je l'entends. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même une augmentation de la recette fiscale de 15,80%.
Non, l'évolution de la recette fiscale de la commune, parce qu'elle évolue effectivement, elle augmente légèrement tous les ans d'à peu près 40 à 60 000 euros du fait de l'effet base. Cette augmentation, si on trace une courbe, c'est une évolution constante depuis 2012-2013. Il n'y a rien qui change dans la fiscalité communale. Absolument rien. C'est comme si demain, votre employeur vous dit « Monsieur Normani, je vous enlève 40% de votre salaire et c'est mon voisin qui va vous donner les 40% qui comptent. Voilà. » C'est pas la même personne qui vous donne l'argent, mais vous avez toujours la même paye à la fin du mois.
Je l'entends, mais bon, bref. Okay. Pour revenir sur un sujet qui m'importe plus, qui est le personnel. Donc, vous nous dites que les prévisions du personnel ne vont pas bouger. Par contre, vous savez que dans la strate de la commune de Camaret-sur-Aigle, le montant du coût du personnel est quand même extrêmement élevé. Il est de entre 59 et 61%, alors que sur les strates de même niveau, il est d'environ 54%. Donc, je sais que vous intervenez sur ce sujet, mais je voudrais savoir comment vous allez faire, puisque vous nous dites que la stabilisation, puis une diminution sur le mandat, et je voudrais savoir comment vous allez y faire pour arriver à ce résultat, monsieur le maire.
Alors, si le niveau est élevé par rapport aux communes de même strate, c'est la vérité. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le niveau d'emploi par rapport à service. Qui dit emploi de fonctionnaires territoriaux dit service, en fait. Et il se trouve que, ben là, on n'y peut rien, mais de toute façon, on est plutôt pour. Quand nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avions déjà ce taux très important de dépenses du personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement, très important, avec des effectifs un peu plus importants que des communes comparables. Mais pourquoi ? Parce que les équipes successives ont proposé aux Camaretois des services que toutes les communes comparables pourtant ne proposent pas forcément. Et d'ailleurs, des communes de notre secteur profitent de nos équipements, de nos infrastructures, de notre personnel aussi. Il y a une compensation, bien entendu, mais tout ça pour vous dire que c'est parce que en face, il y a aussi des équipements proposés qui ne sont pas proposés par toutes les communes.
Oui, j'entends bien. Merci, c'est bien. Mais il n'en demeure pas moins que nous allons, dans cette dynamique, vers une problématique quand même. puisque s'il n'y a pas des efforts qui sont faits au niveau de la diminution des charges de personnel, étant donné que les recettes sont constantes, ça va poser un problème.
Et d'où effectivement notre volonté de ne pas obligatoirement remplacer tous les départs à la retraite, d'où notre volonté de façon tout à fait ponctuelle et très surveillée, parfois de déléguer aux services privés, au secteur privé, certaines prestations, notamment en matière de nettoiement. Madame Birgouvet en sait quelque chose. D'où notre volonté de ne pas forcément, encore une fois, remplacer tous les gens qui s'en vont. Et c'est avec cet objectif-là, cette volonté, cette démarche-là, que nous allons arriver à baisser clairement les dépenses de personnel d'ici la fin du mandat.
Ok, merci.
Une autre question?
Je voudrais poser une question aussi.
Je vous en prie.
Après, mais c'est pas sur le personnel, donc je voudrais pas.
Non,
ça...
mais sur le budget.
Sur la FCTVA. Vous savez que la réglementation a changé au 1er janvier 2021. Alors, j'entends bien qu'il y a un décalage dans le temps au niveau du retour de sa TVA sur les investissements. Le changement va être important, puisque malgré ce que vous dites et que l'État vous spolie de tous les côtés, il met en place des choses pour essayer d'améliorer. Et je voudrais savoir si cela a été pris en compte dans le budget de 2021.
Monsieur le DGS va vous répondre.
La FCTVA 2021 est toujours calculée selon la même manière que la FCTVA 2020. C'est effectivement une réforme qui arrive et qui sera applicable en 2022. Donc elle apparaîtra dans le budget 2022.
Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions, Monsieur Savin?
Une petite dernière.
Et je vous en prie.
Dans la section d'investissement, dépenses d'investissement, vous aménagez 4 logements, donc 245 000 euros pour en estimation. Par contre, en recettes d'investissement, vous prévoyez un emprunt de 245 000 euros afin de financer l'aménagement des 4 logements d'entrée de ville sans attendre les notifications de subvention demandées.
Oui, c'est pour ne pas perdre de temps en réalité. Au niveau de notre capacité à emprunter, on est tout à fait dans les clous, on est tout à fait en capacité de le faire. Nous entendons profiter aussi des taux qui, comme vous le savez, sont extrêmement bas en ce moment. Et c'est encore une fois, c'est pour éviter un décalage dans le temps qu'il peut y avoir entre la fin des travaux au niveau de l'extérieur de la place de la Poste et la fin et l'achèvement des travaux de l'aménagement intérieur de ces 4 logements. Donc c'est vrai, c'est pour ne pas perdre de temps et pour pouvoir enchaîner les travaux les uns à la suite des autres et pour pouvoir livrer ces logements le plus tôt possible.
Ok.
Est-ce que je peux passer au vote? Monsieur Boncorsini.
Reçu sur vite fait, c'est parce que j'avais peur de l'avoir oublié. Je me souviens, il y a au moins de votre arrivée aux affaires, vous avez critiqué la municipalité précédente en disant qu'elle avait endetté la ville par des emprunts importants. Effectivement, quand je fais le compte, il y a à peu près 900 000 euros d'emprunts qui ont été faits, peut-être 1 million, si on veut un peu plus loin, pour faire la crèche, pour d'autres, notamment des investissements à caractère utilitaire et avec un revenu économique, puisqu'il y a quand même des rentrées. Vous venez de dépenser presque 800 000 euros actuellement, et je ne compte pas le dernier de 150 000. Donc on n'est pas loin du même nombre, et pour l'entrée de ville en grande partie, qui n'a pas un caractère économique. Donc je trouve que à ce moment-là, vous étiez un peu présomptueux.
C'est votre rôle d'opposant de faire ce genre de remarques pas très agréables, à laquelle je répondrai qu'on ne peut pas comparer les taux de l'époque qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Vous en conviendrez quand même?
Tout à fait, parce que plus ou moins de la chance, je souviens de la banque. Bon. Je sens que le taux, c'est très important. Voilà. Mais le capital, il faut le rembourser quand même.
Il faut le rembourser, bien entendu. Mais voilà, les taux étaient tout à fait différents. Il y avait un niveau d'emprunt à l'époque qui n'était pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a d'ailleurs 2 emprunts qui se sont terminés. Je n'ai plus la somme totale en jeu, mais il y en a. Ça fait à peu près. Ça va faire à peu près 100, 100, de 200 000 euros. On avait un emprunt de 152 000 euros et un emprunt de 62 000 euros qui se sont terminés. Donc, ce qui accroît quand même considérablement notre capacité à emprunter et à profiter de taux, encore une fois, très intéressants et pas du tout comparables à ceux d'il y a quelques années. Et j'ajoute que pourquoi est-ce que l'on fait cet emprunt ? D'abord pour proposer une offre de logement à loyer abordable à nos concitoyens, mais aussi en face, il y aura bien entendu quand même si ce ne sera pas des très 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 grands loyers, gros loyers, il y aura une recette aussi. Il y aura quand même une recette. Donc voilà, non seulement on réhabilite des logements, mais en plus on crée des recettes.
Sur les appartements.
Sur les appartements. Voilà. Ça y est-ce que nous pouvons voter
une petite dernière encore.
Une petite dernière.
Bon, je constate donc que vous choisissez l'emprunt plutôt que les subventions.
C'est les deux, mon général.
En l'occurrence, ce n'est pas les deux.
Si, ce sera les deux.
C'est-à-dire que vous anticipez une subvention et donc vous créez de la trésorerie.
C'est une façon de voir les choses, mais c'est ce que je vous ai expliqué.
Mais est-ce qu'elle est juste, ma façon de voir les choses?
Si vous me laissez terminer, je vous répondrai. Je vous ai expliqué qu'on a eu recours à l'emprunt pour ne pas perdre de temps, en fait. En fait, les subventions, on sait qu'on les aura, mais on ne sait pas vraiment quand. Et on ne voulait pas que le chantier prenne du retard. Donc, c'est pour pouvoir livrer le plus tôt possible les logements dans la foulée de l'achèvement des travaux de la place de la Poste.
Avec un peu d'humour, vous pourriez proposer à la CCAOP de faire des emprunts pour faire les réparations des digues dans le cadre de la GEMAPI.
Je pense que c'est malheureusement prévu.
Ce qui pourrait être intéressant pour la subvention par la suite.
Mais c'est prévu. C'est une bonne remarque parce qu'elle est tout à fait envisagée, justement.
Ah, si vous étiez le président de la CCAOP.
Ah non, je n'ai pas voulu occuper cette fonction. Elle est très bien occupée par mon collègue et ami Julien Merle. Et c'est très très bien comme ça, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ultimes ? Car nous allons pouvoir donc passer au vote, même si j'en devine quelque peu la teneur. Qui est contre ? Au groupe Ensemble pour Camaré. Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. Nous allons passer à quel dossier ? Si je retrouve l'ordre du jour, il est là. Dossier numéro 6, attribution d'une subvention au CCAS de Camaret, rapporteur René Sauverin.
Vu le budget 2021 du Centre communal d'action sociale de Camaret-sur-Aigue, vu l'avis de la commission des finances du 29 mars 2021 relatif à l'attribution d'une subvention de 42 543,17 euros au CCAS de Camaret-sur-Aigue, vu le budget de la commune pour l'exercice budgétaire 2021 et notamment l'article 657-362 de la section de fonctionnement, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention 2021 de 42 543,17 euros au CCAS de Camaret sur Aigue, d'imputer les sommes relatives à cette subvention à l'article budgétaire 657-362 de la section de fonctionnement.
Merci. Y a-t-il des questions ? Votre groupe, à l'intermédiaire de M. Savin, est à peu près au courant maintenant de ce qui se passe en termes de finances au niveau du CCAS. Donc vous savez que c'est un budget c'est une subvention pour un budget qui est conjoncturel, qui est particulier en raison du Covid. Alors je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 7, attribution des subventions aux associations ou autres organismes, rapporteur Chantal Bergel.
Vu le budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigle pour l'exercice budgétaire 2021, vu les demandes des subventions faites par différentes associations ou organismes pour l'année 2021, vu l'avis de la commission des finances réunie le 29 mars 2021, il est demandé au conseil municipal d'attribuer les subventions suivantes. Fonctionnement exceptionnel et exceptionnel conformément au tableau récapitulatif annexe. Association sportive, association culturelle, association enfance scolaire, association ou organismes divers. La somme relative à ces subventions seront imputées à l'article budgétaire 6574 de la section de fonctionnement du budget 2021 de la commune de Camaret-sur-Aigle, pour un montant total de 68 317,50 €.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, j'en profite pour remercier pour leur civisme.